puis ça nous fait plaisir, mais vous nous avez manqué, puis ça nous fait plaisir d'être de retour avec vous ce matin. Donc, on continue la série de David, un cœur qui bat pour Dieu. Et puis, je voulais juste faire un petit retour du 2 novembre. Le 2 novembre, ce qu'on avait vu, c'est vraiment un événement catastrophique dans la vie de notre cher David. Après avoir étudié sa vie pendant 20 semaines, on est arrivé à un événement vraiment triste, vraiment désastreux, malheureux et scandaleux. Notre cher David qui se retrouve dans son palais, l'armée est allée pour vaincre un ennemi, puis lui n'est pas allé. Et puis on a vu c'était quoi les conditions propices à la chute. C'est pas arrivé dans un vacuum, cette chute-là. Qu'est-ce qu'on a vu, c'est que, bon, il y avait eu beaucoup de succès. Le succès, c'est bien, mais le succès porte un danger. Hein? Le succès peut nous conduire à l'orgueil, à se dépendre de nous-mêmes, à oublier que tout ça, c'était l'œuvre de Dieu. Donc, il y avait cet élément-là. Il y avait aussi l'élément d'un manque de discipline dans la vie de David à ce moment-là. On le voit, il se lève tard, il s'est permis des choses. Il y a beaucoup de femmes que le Seigneur avait dit, « Non, fais pas ça. » Moïse avait averti, « Si un jour vous avez un roi, il ne prendra pas beaucoup de femmes. » Bon. Et puis, plus on s'en permet, les amis, hein, qu'est-ce qui se passe?
Plus on en veut.
C'est ça. C'est la nature humaine. Donc, on a vu, comme je vous disais, là, les tempêtes de verglas, hein, il y a des conditions propices à ça, puis on a des avertissements, des fois, sur nos téléphones, météo-média, avertissement, puis verglaçante à venir. Et puis, il y a des conditions météorologiques qui conduisent à ça. Puis, dans la vie de David, puis dans ta vie, puis dans ma vie, il y a des conditions là, propices à une chute. Et la Bible dit que celui qui se pense debout, quoi? Prenne garde qu'il ne tombe. Alors, notre cher David, malheureusement, est tombé très, très bas. Hein, il commet l'adultère avec la femme d'Uri. Il fait revenir à Uri du front. Il essaie de le faire envoyer coucher avec sa femme. Uri, non, il est trop intègre. Il veut rester prêt pour le combat, etc. Il est attaché à l'arche de Dieu, au peuple de Dieu. Il veut pas. Il fait revenir. Il fait boire jusqu'à ce qu'il soit saoul. Donc, il essaie de le corrompre. C'est pas beau, hein? C'est vraiment pas beau. Puis là, quand ça ne marche pas, ben il envoie une lettre dans la main de... C'est son propre arrêt de mort, là. David dit, « Va donner ça à ton capitaine Joab. » Puis c'est quoi qui était marqué dedans? « Mets-le au plus fort du combat, puis retirez-vous. » Oh boy! Et mensonge, manipulation, manigance et tout ça. On a vu aussi la dynamique du péché. D'où ça vient, ça, le péché? Puis la Bible nous dit rapidement que ça vient de l'intérieur. Ça vient pas de l'extérieur. Nous, en tant qu'êtres humains, là, on est vraiment experts à blâmer tout le monde, à blâmer notre entourage, à blâmer nos circonstances. C'est pas moi, c'est le diable. C'est pas moi, c'est garde. La femme, là, je suis sorti sur mon balcon. J'avais-tu le droit de sortir sur mon balcon, sur le toit de ma... Puis j'ai pas demandé de voir la femme. Puis on se positionne quasiment en victime des circonstances. Mais la Bible dit non. Le péché est amorcé lorsqu'il y a un désir qui monte et lorsqu'on laisse le désir poursuivre son cours, c'est comme un appât, hein, à la pêche, vous rappelez l'image, mais là, on mord à l'appât. L'appât peut être là, peut nous sembler intéressant, mais on n'est pas obligé de mordre, hein? Dieu dit à Caïn, hein, dans la Genèse, il dit quand il voit que Caïn, il y a une amertume dans son cœur par rapport à son frère Abel, qui a présenté le bon sacrifice que Dieu avait demandé, alors que lui a présenté d'autres choses. Là, dans son cœur, ça monte, là, l'amertume. Puis Dieu dit, attention, là, Caïn, le désir est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire qu'il y a des désirs dans nos cœurs, mais on n'est pas obligé de céder à ces désirs-là. Dieu nous dit « domine ». Et Caïn, malheureusement, il n'a pas dominé. Il a laissé le désir s'emparer de lui, puis est allé tuer son frère. Donc, la dynamique du péché, puis on a vu aussi, c'est quoi la solution à ça, là? On fait quoi avec ça? Bon, essaie d'être une bonne personne. Essaie de suivre les commandements de Dieu. Essaie de suivre les exemples, David, Moïse. Essaie, fais ton mieux. Fais pas ci, fais ça. Ça, on appelle ça le moralisme. Et ce n'est pas l'Évangile. C'est trompeur, c'est subtil, les amis, parce qu'il y a le moralisme général dans la société, mais il y a le moralisme chrétien qui est des fois prêché dans nos églises. Ce n'est pas l'Évangile. Je vais vous dire un petit rappel là-dessus. Donc, la solution humaine, c'est le moralisme, ça veut dire c'est les efforts humains, c'est axé sur le comportement, et surtout, évite le péché. Mais le problème, c'est que quand tu essaies de faire ça, les désirs s'enfoncent même. Ce n'est pas la solution de Dieu. La solution divine est autre chose. C'est l'Évangile de la grâce. C'est de comprendre que Jésus est venu porter le péché sur lui, subir les conséquences, affronter le jugement de Dieu pour toi et te donner sa justice. Il y a deux aspects de l'Évangile. Enlever ton péché et, deuxièmement, donner sa justice. Ça, on oublie ça, cette deuxième partie-là. Fait que si tu es en Christ, tu as la justice de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de te forcer. Tout a été accompli sur la croix. Pour toi, pour moi, c'est difficile pour nous de croire ça. Hein? C'est dur. Mais il nous a donné une nouvelle identité. Hein? Une nouvelle identité, enfant de Dieu, saint. Nous sommes appelés saints. Il nous a justifiés par le sang de sa croix. Donc, à partir de ton nouvelle identité, la Bible dit, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, marche comme un enfant de Dieu. C'est pas, essaie de marcher comme un enfant de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Vous voyez la différence? Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, marche en fonction de ce que tu es. L'Évangile de la grâce, c'est porté sur le cœur. Dieu porte son regard sur le cœur, on a vu, hein? Un cœur qui bat pour Dieu. Dieu veut voir le cœur. C'est quoi ton désir? Qu'est-ce qui te contrôle? Et c'est finalement vivre par l'Esprit. On pense, comme j'ai dit, que ma vie chrétienne, OK, j'ai eu le salut par grâce. Maintenant, il faut que je me force. Force-toi, là. Force-toi, mon petit gars, puis essaie de vivre une bonne vie. Essaie d'être un bon petit chrétien. C'est pas ça du tout. C'est marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est fondamental, mes amis. Vraiment, cette notion-là est fondamentale. Donc, c'est pas « essaie d'être une bonne personne, essaie de ne pas faire ça, essaie de ne pas faire ça et essaie de marcher par l'Esprit ». Non, c'est le contraire. C'est « marche par l'Esprit » et en marchant par l'Esprit, là, il n'y aura pas de place pour la chair, pour l'ancienne nature et ses désirs. Tu n'accompliras pas. Il va passer des leurres, il va passer des hein? Puis tu ne mordras pas. Pourquoi? Parce que ton être va être rempli de l'Esprit. Comprenez-vous? Ça, c'est la dynamique de l'Évangile. Et c'est ça la solution à toute cette question-là morale. Fait que ça, on a vu ça le 2 novembre. Et le moralisme, ça produit l'orgueil. Si tu réussis, dans ta tête, parce que c'est jamais le cas là, à 100% que tu réussis à être une bonne personne, là, mais tu penses que tu es réussi, bien, l'orgueil est là. Tandis que l'Évangile produit plutôt l'humilité. Moi, j'étais pécheur, je suis encore, mais par la grâce de Dieu, j'ai été pardonné, j'ai été justifié, j'ai reçu le Saint-Esprit et maintenant je marche. Et ça produit l'humilité. Ensuite, qu'est-ce que ça produit? Le moralisme, ça produit l'hypocrisie, parce que si tu penses que tu as réussi, mais dans le fond, tu te permets des choses, mais il ne faut pas que tu montres ça aux autres, là. Fait que ça produit un climat d'hypocrisie. C'est le contraire de la transparence que l'Évangile produit. Le moralisme peut aussi produire la honte, le mépris de soi, tandis que l'Évangile, produit la liberté et l'accueil. Bon, ça, c'est un résumé très rapide, le découragement du moralisme versus la joie de l'Évangile. Je vous encourage, si vous n'étiez pas là, d'aller écouter ce message-là du 2 novembre. Bon, ce matin, je vous invite à tourner dans vos livres, dans vos téléphones, dans 2 Samuel, chapitre 12, dans vos Bibles, vos applications ou dans votre Bible papier. 2 Samuel 12. Fait que là, tout ce qu'on vient de résumer sur David, là, ça termine avec le chapitre 11. Et maintenant, on arrive au chapitre 12. Et on est à peu près un an plus tard. On va le voir tout à l'heure. Là. Vous y êtes? L'Éternel, je suis dans la Bible du Sommeur. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit, « Dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. » Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son invité. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David, « Tu es cet homme. Cet homme-là, c'est toi. » Prions. Éternel notre Dieu, qui sommes-nous pour nous approcher de toi? Nous sommes, Seigneur, des êtres humains, comme ta parole nous dit, faites de la poussière, chair et os. Nous sommes des pécheurs, des vermisseaux, des crapules, mais que tu as aimé. Que tu as aimé, Seigneur. Et que tu aimes encore. C'est pour envoyer Jésus mourir sur cette croix pour chacun de nous, enlever notre péché et nous donner sa justice. C'est un évangile tellement simple, mais tellement dur à accueillir. Seigneur Jésus, bon berger, on t'aime. On n'est pas digne, Seigneur, que tu sois parmi nous. Mais toi, tu as dit, venez à moi, venez. On vient à toi, Seigneur, ce matin. On veut s'asseoir à tes pieds. On veut entendre ta parole. On a soif de toi, Seigneur. Saint-Esprit, Esprit de vie et de vérité, souffle sur nous. Souffle sur ce peuple. Souffle sur ces eaux mortes et desséchées. Mets la vie, rassemble les eaux, mets la vie, la chair après les os, et ton souffle de vie pour qu'on soit une armée qui te célèbre et qui te sert. Au nom de Jésus, amen. Un peu fatigué, je m'excuse si... Quand je suis fatigué, je deviens émotif. plusieurs savent que j'ai été ophtalmologiste pendant 32 ans. Une des maladies que j'ai soignées beaucoup, énormément, c'est le glaucome. Le glaucome, c'est une maladie de l'œil qui est insidieuse. C'est une maladie qui, où ce que la pression de l'œil monte trop haut. À l'intérieur, il y a un liquide qui circule à l'intérieur de nos yeux. Il faut que ce liquide-là s'évacue, mais le drain ne fonctionne pas bien. Et là, la pression monte dans l'œil. Et la pression, cette pression-là, va venir gruger le nerf optique en arrière, qui est le câble qui relie là, le globe au cerveau en arrière. Hein? Je ris parce que j'ai tellement expliqué ça souvent dans ma vie. Le globe, c'est comme une caméra. Le cerveau, c'est comme l'ordinateur. Puis le câble qui relie les deux, c'est le nerf optique. Il rentre dans l'œil. Puis où est-ce qu'il rentre dans l'œil? Il est soutenu, mais c'est fragile. Fait que quand il y a trop de pression dans l'œil, ça vient gruger le nerf comme une carie dans une dent. Et à mesure que ça se passe, bien, les petites cellules meurent et on perd progressivement notre champ de vision. Mais c'est insidieux. Qu'est-ce que ça veut dire, insidieux? C'est quelque chose qui semble bénin au prime abord, mais qui cache des choses désastreuses. Ça a un début bénin, mais ça masque une réalité grave, une gravité. Et c'est très grave parce que la personne, elle ne se rend pas compte, parce que c'est très, très lent. Ça se passe souvent, pas toujours, souvent sur des mois, des années. Le champ visuel baisse, la personne ne se rend pas compte. Puis en plus, c'est pas au centre. C'est plus dans la périphérie que ça. Voyez-vous, là, ça commence dans la périphérie. Et le centre, la personne peut penser qu'elle voit bien. Mais souvent, les gens nous arrivent, puis le glaucome est déjà dans un état avancé. Et des fois, on n'est pas capable d'arrêter la progression. Souvent, on arrive, mais des fois, on n'est même pas capable d'arrêter la progression. C'est trop tard. Fait que ce matin, on va parler d'une maladie. Le titre de mon message, c'est la maladie qu'on ne voit pas. Et la phrase sommaire, c'est « La mission de Jésus-Christ consiste à nous révéler notre aveuglement spirituel afin de nous délivrer du danger réel qui nous guette. » Donc, une maladie qu'on ne voit pas. Et voici le résumé du message. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quatre choses. Une parabole choquante. Deuxièmement, qu'est-ce que l'aveuglement spirituel? Troisièmement, la mission de Jésus et l'urgence d'agir. Donc, une parabole choquante. Comme j'ai dit, le chapitre 11 nous relate la chute de David. C'est le centre du livre de 2 Samuel. Tout ce qui vient avant, c'est David, un homme attaché à Dieu, un homme fidèle à Dieu, un homme qui compte sur Dieu, un homme de foi. C'est éclatant, c'est glorieux. Et tout ce qui vient après, c'est plutôt déprimant, parce qu'on va voir les conséquences. Puis le chapitre 11 est en plein milieu du livre, il divise les deux parties. C'est vraiment un contraste. Probablement que l'auteur l'a voulu ainsi. Mais bon, le chapitre 11 termine avec ces paroles. « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? C'est comme la façon la plus douce de dire que l'Éternel, il devait être en furie contre David. Mais c'est encore la grâce, hein? Encore la grâce. Moi, ces paroles-là, ça me dépasse. Dieu n'est pas content. Ce que David a fait déplut à l'Éternel. Mais remarquez bien qu'il ne se passe rien pendant un an. Pendant un an! Comment on sait ça? C'est parce que quand Nathan arrive pour parler à David, là, ben le bébé que Bathsheba portait, ben, c'est tombé enceinte après leur aventure, là, ben, il est déjà né, le bébé. Ça fait un petit bout, on ne sait pas combien de temps, mais les experts, ils pensent, basés sur ça, qu'il ne s'est passé rien pendant un an. Voyez-vous quelque chose de bizarre là-dedans? Si Dieu n'est pas content, Dieu il a raison de ne pas être content. C'est scandaleux là, ce que David a fait. C'est impensable. Hein? Comment vous vous sentiriez, vous, là, si vous étiez dans la parenté de Bathsheba, puis vous saviez ce que David... Dans la parenté d'Uri. Vous seriez en furie, là. Ça vous grugerait probablement. Là. Quand est-ce que Dieu va faire justice? Hein? On a soif de justice. Moi, j'y vois un exemple de la grâce de Dieu ici. Pendant un an, on dirait que Dieu dit, on va voir si David se repent de lui-même. Là, je n'insiste pas là-dessus. Là. Ce n'est pas marqué, OK? Ça, c'est Brian Mathieu, c'est moi qui le pense, OK? n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Dieu a laissé le temps à son serviteur de se repentir. Et il ne l'a pas fait. C'est grave. C'est grave. Mais c'est la grâce de Dieu. Puis un jour, le prophète arrive, là, un beau jour, il dit, « David, j'aimerais te raconter une petite histoire. » Bon, vas-y. Puis il lui raconte la petite histoire qu'on vient de lire. Un homme riche, un homme pauvre. L'homme riche, il a des brebis, il a des bœufs, il a tout ce qu'il faut. Le pauvre, il a juste une petite brebis. Puis elle fait partie de la famille, hein? On voit là. C'est comme un chien de compagnie, si on veut. Et puis le riche, il y a un invité qui arrive, puis au lieu de prendre l'une de ses brebis, il va voler la brebis du voisin, la tuer, la prêter et servir son invité. Et là, David, il rentre dans une colère. Le verset 5 nous dit que David entre dans une violente colère contre cet homme. C'est parce que Dieu il a bien choisi ça, le sujet de la parabole. Hein? David, il était attaché à ses brebis. Quand il était jeune, qu'est-ce qu'il faisait? Il paissait les brebis de son père. C'est un berger dans l'âme, David. Et Dieu dit, je t'ai pris derrière les brebis pour paître mon peuple. Donc, c'est un berger. Et là, il est en furie contre cet homme-là d'avoir fait une affaire de même. Et puis, David dit, c'est toi. Nathan, pardon, merci. Il rentre dans une colère violente contre cette injustice flagrante, mais il ne se voit pas. Là, comment ça se fait que David peut être en voir de mesure l'injustice dans la parabole, le personnage principal, mais il ne voit pas. Il ne voit pas ses péchés. Eh bien, la dure réalité, la vérité pure et dure, les amis, c'est qu'en tant qu'être humain, la Bible dit que nous souffrons d'une maladie comme le glaucome qui s'appelle l'aveuglement spirituel. Puis c'est ça le gros point de ce matin. Un des gros points, c'est qu'on est des aveugles spirituellement. Cette histoire-là nous le révèle d'une façon flagrante. C'est fou, hein? Mais est-ce que c'est juste David qui est aveugle de même? Non, malheureusement, c'est toi, c'est moi aussi. On en souffre tous, les amis. Pour appuyer ce que je dis là, considérons les échanges que Jésus a eus avec les pharisiens, ses leaders religieux de l'époque. Jésus dit dans Matthieu 15, 14, « Laissez-les... » Il dit à ses disciples, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Jésus dit ça pourquoi? Parce que les leaders religieux, ils s'opposaient à lui, malgré le fait que Jésus, il remplissait tous les critères, il cochait toutes les cases pour être le vrai Messie, c'était évident, mais eux, ils refusaient. Et Jésus dit, « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Plus loin, Jésus traite encore leurs préoccupations avec des rites extérieurs, leur moralisme, religieux hypocrite, leur négligence de l'amour et de la miséricorde, mais leur obsession avec des détails là, pointillés de la loi de Moïse, là, puis les découlants qu'il avait établis. Jésus dit, « Malheur à vous, spécialistes de la loi, hypocrites. » Parce que vous versez la dîme de la menthe, c'est-à-dire Dieu demandait qu'ils donnent le dixième de leur revenu, bien là, il allait jusqu'à donner le dîme de la menthe, tu sais, des épices puis des herbes, là, tu sais, c'est fou, là. Mais il dit, vous versez la dîme sur ces choses-là et vous laissez de côté ce qui est de plus important dans la loi, la justice, la bonté, la fidélité, c'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle. Plus tard, Paul met en garde Timothée. Quiconque enseigne des doctrines qui vont à l'encontre des paroles de Jésus-Christ, il dit à Timothée, il dit dans 1 Timothée 6, 4, celui qui fait ça, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles des démons. Il est aveuglé par l'orgueil. L'apôtre Jean, dans 1 Jean, on l'a vu il y a quelques années, toute l'épître de 1 Jean, c'est des indices pour nous aider à dire, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu ou non? Hein? Puis un des indices est celle-ci. Celui qui aime son frère, dit Jean, demeure dans la lumière. Et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire trébucher. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu quoi? Aveugle. Aveugle. Fait que c'est un choix délibéré de continuer de marcher dans les ténèbres au lieu de cueillir les lumières de Jésus, la lumière de Jésus. Ce qui conduit à l'aveuglement, c'est bien le fait que, comme on a vu, l'être humain a été créé pour être centré sur Dieu. Dieu est la source. Hein? C'est comme le soleil. Le soleil, c'est sans le soleil, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien sur la terre. Hein? Ben, Dieu, c'est ça. Hein? Il nous a créés pour être en relation avec lui. La Bible dit, c'est lui notre soleil. C'est lui. Tu es notre soleil, dit la Bible. Puis quand tu es supposé d'être centré sur lui, on a été créé pour être centré sur lui, corps, âme et esprit, tout aligné avec lui. Puis quand le péché est entré, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été coupé, ça. Fait que là, l'homme, il se retrouve comment? Seul avec lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de combler ce vide-là par d'autres choses. Il comble comment? Par lui-même. C'est lui, Dieu. C'est lui la référence. Il n'y a plus de référence externe. Puis ça, on le voit de plus en plus dans notre société aujourd'hui. L'humanisme, c'est ça. C'est l'être humain au centre. Si tu veux être ici, t'as beau. Personne ne peut te dire quoi faire. Personne ne peut t'imposer quoi que ce soit, parce que c'est toi l'autorité. Tu peux décider qu'est-ce que tu veux. Donc, l'homme, l'être humain est aveugle par son orgueil, par son égocentrisme, par sa résistance naturelle à la lumière de Dieu. Parce que là, étant coupé de Dieu, si Dieu essaie de s'approcher, c'est comme, non, c'est je ne veux pas. Puis on va le voir ça tantôt. Mais également, c'est l'œuvre de Satan. Parce qu'il y a réellement un monde spirituel, les amis, dans lequel on vit. C'est pas juste le physique, il y a réellement un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a des esprits de bien et des esprits malins. Et le chef des esprits malins s'appelle Satan. Et Satan, lui, son but, c'est de continuer à encourager les gens à rester dans les ténèbres. Paul dit dans 2 Corinthiens, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, c'est Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Voyez-vous qu'on est aveugle? Commencez-vous à comprendre qu'on est aveugle? C'est bon. À voir. Et c'est ça, là, ça introduit le prochain point, c'est que non seulement tu es aveugle, je suis aveugle, mais on est aveugle au fait d'être aveugle. J'en ai déjà parlé un petit peu ici. C'est Paul Tripp, le pasteur et auteur, qui dit, contrairement à un aveuglement physique, un handicap physique, où ce que la personne est aveugle, puis elle sait qu'elle est aveugle, là, ben nous, on est aveugle, mais on ne sait pas qu'on est aveugle. On pense qu'on voit. On est aveugle au fait d'être aveugle. Et ça prend un éclaircissement. Jésus dit à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Wow! Mais fait curieux, les amis, c'est qu'on voit très bien les fautes des autres. David, il rentre dans une violente colère contre le personnage dans l'histoire de Nathan. Il voit bien, regarde, C'est injustice flagrante, là. Ça touche au profond de son âme, mais complètement aveugle sur ses propres fautes. C'est toi. C'est moi ça. Je suis capable de voir tes fautes, mais j'ai de la misère à voir les miennes. Puis la Bible dit qu'on est tous pareils là-dessus. On est tous pareils. Nous sommes tous en mesure de voir et de réagir aux injustices des autres, tout comme David. Hein? David, là, on dit, « Oh, ouais, homme de Dieu, hein? Homme selon le cœur de Dieu. Ouais, regarde ce qu'il a fait. » Nous pouvons facilement voir les péchés scandaleux de David, mais rester aveugles au nôtre. Puis ça me fait penser un petit peu, à, quand on conduit, il y a la partie, l'angle mort, merci, l'angle mort, hein, entre le rétroviseur à l'intérieur, le rétroviseur à l'extérieur, il y a un angle mort, puis toute une auto, même un camion peut rentrer dans cet angle mort sans que tu le saches. Puis combien de fois, quand je conduis, attention, il y a quelqu'un à côté. J'étais en train de changer de voie, puis je n'avais pas regardé, je n'avais pas vérifié mon angle mort. On est tous comme ça. Puis, ce que le Seigneur me met à cœur ce matin, à travers l'histoire de la Bible, c'est que la première étape, chers amis, c'est de reconnaître. De reconnaître que tu as cette maladie-là de l'aveuglement spirituel, que j'ai cette maladie-là. Reconnaître ton aveuglement, te mettre d'accord avec ce que la parole de Dieu déclare à ton sujet. Moi, je me dis, en lisant l'histoire de David, j'ai la frousse quand je lis cette histoire-là. J'ai la frousse parce que je me dis, si un gars intègre comme David, toute sa vie, intime avec Dieu, écrit des psaumes incroyables, si lui peut chuter. Bien, ça peut m'arriver très facilement. Je ne suis pas à l'abri, tu ne l'es pas à l'abri. C'est la personne qui dit, « Voir si je ferais une affaire de même », qui est en danger. C'est elle qui est en danger. La Bible dit, « Celui qui pense qu'il est debout, qui pense, prenne garde, qu'il tombe. » Donc, il faut reconnaître. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change d'être aveugle. Si j'avoue, je suis aveugle, bien, c'est que la parole de Dieu dit qu'il y a un danger mortel associé à ça. Il y a un danger mortel associé à ça. Puis, je reviens avec une autre illustration d'une conduite automobile. Qui a déjà conduit dans une tempête de verglas? Ouf, hein? Puis, est-ce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que même en dépit des dégivreurs puis des lave-glaces, là, vous n'êtes pas capable là, de prendre le dessus. Le pare-brise s'embrouille de plus en plus, la couche de glace s'épaissit et c'est extrêmement dangereux. Ce matin, on est arrivé en retard un peu parce que j'ai fait une bévue. Alors, on est sorti de notre entrée, j'ai dit, « Ah, j'ai oublié les cartes pour le concert, là. » Et puis, fait que au lieu de revirer, j'ai reculé, puis là, ben je me suis fié à ma caméra de recul. Au lieu de faire ça comme on faisait avant, regarder par-dessus l'épaule, je me suis fié, pas une bonne idée. Pas une bonne idée. C'est bon, la caméra de recul, je vous donne un petit, parce que j'apprends de mes erreurs, là. C'est bon, quand vous rentrez dans un stationnement, juste à la fin, là, pour être sûr des lignes, OK? Mais autrement, là, prenez pas votre caméra de recul pour faire des longues distances. Parce que l'entrée était toute enneigée, j'ai pas vu, nos piquets sont pas posés, puis je me suis ramassé complètement dans la neige, incapable de sortir. Fait qu'il a fallu qu'on prenne un autre véhicule, puis notre voisin est venu nous déneiger. Fait que l'aveuglement spirituel représente un danger mortel, les amis. Jésus dit, laissez les aveugles, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui va arriver? Inévitablement. Ça me fait penser à une autre histoire, je ne me rappelle plus c'est qui, ça me vient juste à l'esprit, là. Il y a quelqu'un qui connaissait une famille, il y avait deux garçons qui avaient une maladie génétique, puis ils étaient aveugles, les deux gars. Puis les deux, ils ont décidé de partir en vélo, dans leur rang. Ils sont partis comme ça, là. Oui, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de la fin de l'histoire, mais j'ai l'impression que ça n'a pas bien fini. Mais sur le plan spirituel, l'aveuglement spirituel représente un danger mortel. Et Paul, quand il est arrivé à Athènes, il a dit ceci, il a prêché sur la colline Areopage, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude ou se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus. Il en a donné à tous la preuve en le ressuscitant des morts. » On a été justement le mois passé à Athènes, puis on s'est tenu sur l'Areopage. Mais ce que je veux dire, c'est que le péché, l'aveuglement à son péché, c'est un danger mortel parce que Dieu dit qu'arrive un jugement. Peut-être ça va bien aller pour un temps. Tu peux te promener dans le rang aveugle sur ton vélo, puis peut-être tu vas faire quelques centaines de mètres, mais éventuellement. Puis c'est ça que la Bible nous enseigne, les amis, c'est que Dieu reporte son jugement. Aujourd'hui, Dieu laisse les êtres humains faire ce qu'ils veulent. Et tu peux être aveugle, tu peux faire des péchés, et la foudre ne te frappera pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu suspend son jugement. Le jugement vient un jour. Après la mort vient le jugement. Fait que Dieu laisse les gens, dans leur liberté, faire leur choix. Et c'est vrai. Tu peux très bien vivre dans le péché sans que rien se passe nécessairement. Il peut avoir des conséquences, mais ça peut aller très bien pour un certain temps. Combien de fois on a entendu, nous, quelqu'un qui était dans l'église, dans l'assemblée ici, commencer à faire quelque chose qui n'était pas correct selon la parole de Dieu, et on avertissait. Et si la personne n'écoutait pas, qu'est-ce qui arrivait? Ben non, je suis bien, regarde, il ne se passe rien, je suis bien. Le jugement, c'est après la mort. Parce que Dieu veut donner à tous et chacun l'opportunité de venir à Jésus, qui lui a apporté le jugement. Dieu, la Bible nous dit que Dieu suspend son jugement, espérant que tous se repentent et viennent à la connaissance de la vérité. Mais il y a un grave danger. Et ceux qui disent, ah ben je vais m'arranger avec Dieu, regarde, si je passe pas, il y a une méchante gang, on dit ça aux Québécois, en Québec. En Québécois, il y a une méchante gang, ça veut dire beaucoup de gens qui ne passeront pas non plus, hein, si moi je ne passe pas. Mais là, on se compare avec nos voisins, nos amis. Mais tu ne seras pas comparé à tes voisins et tes amis, tu vas être comparé à qui ici? À l'homme parfait. Il va juger, Dieu va juger selon l'homme. C'est lui le modèle. Je m'excuse, mais t'es foutu. T'arriveras pas à la cheville de Jésus. Moi non plus. Parce que même si tu fais tout selon la loi de Moïse, tu n'as jamais à tes yeux péché, ben le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute pensée, toute ta force. As-tu fait ça toutes les secondes de ta vie? Non. Jésus, lui, oui. Dieu n'aura pas besoin de descendre là, bien loin dans les commandements pour dire, mon ami, tu n'y arrives pas. C'est ça le critère. C'est la perfection. Parce que Dieu est un être parfait. Parfait trois fois saint. Et c'est ça que Paul veut dire, qu'il va juger le monde selon le modèle parfait, l'homme Jésus. T'es foutu. Je suis foutu. C'est Jésus le standard à qui tu seras comparé. Et Paul dit, la preuve, c'est qu'il a ressuscité des morts. La preuve que Jésus n'avait pas de péché, la mort ne pouvait pas le garder, ne pouvait pas le retenir. La conséquence du péché, en bout de ligne, c'est la mort physique, la mort spirituelle. Mais Jésus, la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il n'avait pas de péché de lui-même. Il est mort, oui, mais il est mort, s'il est mort, c'est parce qu'il est mort pour tes péchés. Il les a expiés à la croix. Il est mort, mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? Parce que la mort n'avait aucune autorité sur lui, ne pouvait pas le retenir, parce qu'il était sans péché. Donc la résurrection, c'est la preuve que Jésus, c'était l'agneau parfait de Dieu. Ça marche? Mais retournons un peu à l'histoire de David. On a vu déjà que Dieu a été patient. Et aujourd'hui, Dieu est patient également. Ça, on l'a vu, hein? Dieu est patient. Dieu a attendu un an. Puis là, après un an, Dieu aurait pu faire quoi, là? Ben, David, c'est fini, hein? Qu'est-ce que Dieu a fait? Non. Dieu a envoyé quelqu'un pour l'avertir. Puis ça a dû pincer un peu, là. J'imagine quand David a vu le doigt de Nathan dire « C'est toi ». Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. Une grâce difficile. Mais c'est une grâce. Dieu a été gracieux envers David en lui révélant son péché. Après tout ce que Dieu avait fait pour lui, il aurait pu se tourner le dos à David. Mais non, Dieu est plein de grâce. C'est là qu'on voit quelle sorte de Dieu on a, les amis. C'est difficile d'accueillir ça, la grâce de Dieu. Quand tu pèches, là, quand je pêche, là, comment tu te sens? Moi, je me sens honteux. Honteux. Défaite. Pas content de moi-même. Puis qu'est-ce que ça t'amène à faire? Ben, ça t'amène à t'isoler, à te distancer de Dieu. Pas vrai? Pas vrai? Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Non. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est difficile d'accueillir la grâce de Dieu. C'est difficile à ce moment-là de dire, OK, j'ai péché, mais Seigneur, merci que tu es mort à la croix pour ce péché. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait une affaire de même. Je n'accepte pas. Mais il faut que tu acceptes que tu es péché, que tu te l'admettes, que tu l'admettes à Dieu. Et puis que là, tu acceptes la grâce et que tu retournes à Dieu, qui est gracieux. Il faut que tu crois que Dieu veut te pardonner, que tu es déjà pardonné. C'est difficile de faire ça. C'est même impossible à l'être humain. Il faut crier à l'aide au Saint-Esprit. Viens, Seigneur, je ne suis pas capable d'aller vers toi. Je me sens trop honteux, trop pouiche, trop crapule. Mais la grâce de Dieu ici, premièrement, se manifeste par le fait que Dieu envoie son prophète pour confronter David à ce qu'il a fait, pour lui ouvrir les yeux. Et ça nous rappelle la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'était quoi? Lorsque Jésus débute son ministère, il rend visite à sa ville natale de Nazareth. Le jour du sabbat, il rentre dans la synagogue et il se lève, il prend le rouleau qu'on lui donne et ça se trouve être le rouleau d'Ésaïe. Il déroule le rouleau et il trouve le chapitre 61. Et il lit les deux premiers versets qui disent ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Bien sûr, tout au long de son ministère, Jésus a guéri les yeux physiques de beaucoup, beaucoup de gens. Mais là, on comprend que c'est au niveau spirituel que Jésus veut ouvrir nos yeux. Sur un premier niveau, oui, Jésus a accompli des miracles pour ouvrir les yeux, mais il veut nous ouvrir les yeux spirituels. Il est venu pour ça. Vers la fin de son ministère, lorsque Jésus guérit un homme aveugle né, il déclare « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, merci, les aveugles, voient. » Ok? « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, voient, mais pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quoi? Hein? Ça, c'est dans Jean 9, 39, si tu veux aller voir après, ok? « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, les aveugles, voient. » Comme il a dit dans Ésaïe 61. « Mais aussi... pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et là, les pharisiens qui sont là, hein, qui ne voulaient pas croire que Jésus avait guéri l'aveugle, puis qui ont dit « Non, ce n'est pas lui, c'est un autre. » Ils appellent les parents. « C'est-tu lui? Oui, c'est lui. » Ben là, on ne croit pas. « Il est-tu vraiment né aveugle? » Puis non, ça ne se peut pas. Puis etc. Puis là, Jésus dit ça. Puis les pharisiens qui sont là, qui l'écoutent, ils disent « Ah ouais, nous aussi, sommes-nous aveugles? » Puis là, Jésus, il répond, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, alors votre péché demeure entier. » Wow! Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces paroles-là? C'est que, dans le fond, Jésus dit, « Tout le monde est aveugle, je suis venu pour ouvrir les yeux aux aveugles. » Mais il faut se reconnaître aveugle, pour que je vous ouvre les yeux. Si tu dis, je ne suis pas aveugle, tu restes aveugle. Si tu penses que tu vois, bien, tu ne vois pas et tu vas rester dans tes péchés. Si tu ne sais pas que tu ne vois pas et tu n'acceptes pas ton aveuglement, tu ne ressentiras pas le besoin d'aller vers Jésus, pas vrai? Si tu prétends voir tout en ignorant tes péchés, tu resteras dans cet état. Pour revenir à mon exemple du glaucome, il y a beaucoup de gens à travers les années que j'ai vus, je vous prescris des gouttes pour faire baisser votre pression. Il faut les mettre matin, soir ou le soir. Bon. Et puis, on se revoit dans 6 semaines. Puis, on se revoit dans 4 mois, dans 6 mois, 1 an. Puis, les études ont démontré que même si les gens, quand à chaque fois on les voit, on dit « Est-ce que vous prenez vos gouttes? » Il y a 40 à 50 % des gens qui ne mettent pas leurs gouttes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun symptôme. Il n'y a aucune douleur, puis ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de perdre leur vision. Heureusement qu'on a des machines pour dire, ben, regardez, votre champ de vision a baissé, votre nerf optique a baissé, vous êtes en train de perdre votre vision. Il faut être convaincu que tu es aveugle, que tu es pécheur. Il faut que tu laisses Jésus ouvrir tes yeux, voir cet état-là de séparation avec Dieu, voir que tu es coupé de Dieu. Ne te sens-tu pas, des fois dans ta vie, coupé de quelque chose d'important? Quelque chose de profond. Tu ne te sens pas, des fois, que tu es comme perdu? C'est parce que tu es coupé avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, on a une nostalgie pour quelque chose qu'on n'a pas connu, mais qu'on a besoin. C'est comme la relation avec Dieu, là, l'être humain a été créé pour ça. Ça a été perdu il y a des siècles et des siècles. Mais chaque humain ressent la nostalgie de ça, sans savoir c'est quoi. Ton âme ressent une nostalgie de quelque chose. Ton âme se sent perdue, ton âme se sent coupée de quelque chose d'important, mais tu ne sais pas c'est quoi. Et tu cherches, et tu cherches, et tu cherches. Mais Dieu te cherche. Il s'appelle Jésus, il veut t'appeler à lui, il veut t'ouvrir les yeux. Mais pourquoi Jésus est venu? C'est pour nous délivrer de nos péchés, de ce danger mortel. C'est pour ça que Dieu envoie Nathan à David. C'est pas pour le... Tu sais, le David, là, regarde... Il va t'écraser. Non, c'est pour lui révéler qu'il est dans le péché et qu'il doit se repentir. C'est une grâce, pas vrai? C'est ton état de pécheur qui te coupe de la présence de Dieu. C'est cette relation de proximité avec ton Créateur pour laquelle tu as été créé, mais qui a été perdue. Maintenant, les amis, pourquoi Jésus a très souvent parlé en parabole? Avez-vous remarqué ça dans les évangiles? Les évangiles ne sont pas faciles à lire parce qu'il y a des fichus de paraboles. Je veux dire, tu lis le récit de ce que Jésus a fait, OK, c'est intéressant, puis là, il se met à raconter une histoire, puis tu ne comprends rien, là. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire de parler en parabole? Bien, tu n'es pas le seul à poser la question. Les disciples aussi ont posé la question à Jésus. Pourquoi tu leur parles en parabole? C'est difficile à comprendre. Puis Jésus dit dans Matthieu 13, il dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume. Eux ne l'ont pas reçu. » Quoi? Quoi? Ils ne l'ont pas reçu? Mais voyons, Dieu, est-ce qu'il choisit juste certaines personnes? Il veut juste que certaines personnes viennent à lui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autres ne l'ont pas reçu? Bien, Jésus continue dans Matthieu 13, il dit, « Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. » Oh! Je ne sais pas si vous avez compris. Celui qui a. Et on comprend par d'autres passages que Jésus dit, par exemple, « Faites attention à comment vous écoutez. » Parce qu'il faut recevoir ce que Jésus dit, l'accueillir. Et là, tu as quelque chose. Tu as quelque chose que tu as reçu, OK? Celui qui a, on lui donnera encore. Mais celui qui n'a pas, pourquoi il n'a pas? Parce qu'il n'a pas reçu. Bien, on ôtera même ce qu'il a, ce qu'il pense avoir, parce que Jésus dit, il n'y a rien. OK? C'est difficile à suivre. Mais voici ce que Jésus dit, continue à dire. Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Wow! Je sais, moi, probablement comme vous, là, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, ben voyons donc, il doit y avoir une erreur dans la Bible. Ça se peut pas que Jésus a dit ça. Pas vrai? Attends, OK. Alors, Jésus, il veut pas que certaines gens se convertissent. Voyons. Il poursuit. Jésus, il dit quoi? Matthieu 13. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ah! Fait que là, il faut retourner à l'Ancien Testament pour voir de quoi il parle, Jésus. Jésus cite une prophétie dans Ésaïe. Il dit, « Pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. » Wow! « Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Pourquoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. » Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur comprenne qu'ils se tournent vers moi et que je les guérisse. C'est un jugement que Dieu avait prononcé sur le peuple d'Israël. Okay? Le peuple d'Israël, là, Dieu dit dans l'Ancien Testament, là, je n'ai pas cité, mais ce serait facile de sortir beaucoup, beaucoup de passages. Dieu dit, je vous appelle à changer. Je vous convoque à changer. J'ai envoyé des prophètes. J'ai envoyé des prophètes. Dès le matin, il dit, constamment, vous avez refusé, 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 refusé. Puis là, à un moment donné, Dieu dit, c'est assez. Vous êtes endurci le cœur. Vous êtes bouché les oreilles, bouché les yeux. Alors maintenant, vous aurez beau voir, vous ne verrez pas. Vous aurez bien entendre, vous ne comprendrez rien. Il ne faut pas voir ce que Jésus dit par rapport à ces paraboles comme Dieu veut que certaines personnes viennent puis pas d'autres. Non, Dieu veut que tous viennent. Mais là, c'est le résultat d'un jugement que Dieu avait prédit sur son peuple parce qu'ils s'étaient endurci leur cœur eux-mêmes. Oui, ils ont endurci leur cœur. Et l'urgence d'agir, c'est que si tu entends la voix de Dieu ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Il y a urgence d'agir. C'est pas le désir que personne tombe sous son jugement. Dieu, mais Dieu, on niaise pas avec Dieu. C'est pas vrai que Dieu va parler, puis finalement, au final, rien faire, comme beaucoup de parents font avec leurs enfants, là, en passant. Pas une bonne idée. Qu'est-ce que ça fait, ça? Si tu fais ça, tu n'auras pas de cadeau à ta fête. Arrête! Je te le dis, là, tu n'auras pas de cadeau à ta fête. Puis là, la fête arrive, puis qu'est-ce qui arrive? L'enfant a un cadeau. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dévalué ta propre parole. Tu as enseigné à l'enfant que qu'est-ce que tu dis, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'impact. Dieu, là, il ne fera pas ça. Dieu ne fait pas ça. Parce que lui, sa parole, c'est une représentation de sa personne. C'est une parole vivante et éternelle. Jésus dit, les cieux et la terre ont beau complètement disparaître, mes paroles ne disparaîtront pas. OK? Fait que quand Dieu parle, il est très, très, très patient. Très patient. Plus patient que moi. Beaucoup plus patient. Mais à un moment donné, il arrive un point de non-retour. Quand Dieu voit, là, et Dieu, seul Dieu peut voir ça. Nous, on ne peut pas voir. Mais quand Dieu voit là, qu'une personne est passée là, au point de non-retour, ben là, Dieu enlève tout effort d'éclairer la personne. Et même Dieu peut en remettre. Il peut laisser t'aller à ton endurcissement et Dieu peut t'endurcir, comme il a fait avec Pharaon. Mais ce n'est pas, les amis, son premier désir. OK? Ce n'est pas son premier désir. Dans chaque cas où le cœur s'est endurci, ce n'est jamais Dieu qui en est à l'origine, c'est l'humain. C'est l'humain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On peut faire comme les enfants, là. Non, je t'écoute pas, je t'écoute pas, je t'écoute pas. On est comme ça avec Dieu. Le danger, c'est qu'on endurcisse nos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, tu as le choix. Tu as le choix de recevoir la parole de Dieu ou tu as le choix d'endurcir ton cœur. Si Dieu dit ça, là, c'est parce qu'il y a un risque réel d'endurcir. Si Dieu avertit son peuple, là, c'est parce qu'il y a un risque réel d'endurcir ton cœur. Puis c'est parce qu'il y a un potentiel de vraiment tourner vers Dieu pendant que tu entends sa voix aujourd'hui. La Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Jésus? C'est que plusieurs personnes refusaient de voir, refusaient d'entendre. Et c'était depuis longtemps que son peuple faisait ça. Alors Dieu, il a dit à son fils, « Parle-le en parabole. » Heureusement que ce n'était pas le cas de David. Ça aurait pu être son cas. Nathan, il a parlé en parabole à David. Mais à la fin, il a dit, « C'est toi, mon homme, c'est toi. » Puis heureusement que David s'est repenti. Il y a urgence d'agir. Il y a urgence de s'arrêter sur le bord du chemin, puis de sortir, puis de gratter, ou de laisser Jésus gratter le pare-brise. Hein? Merci. Il y a urgence d'accepter l'Évangile. Urgence d'accepter la grâce, d'entendre, de comprendre, de voir, de recevoir le pardon, le salut en Christ. La grâce de vivre en communauté de famille également. Parce que si vous êtes ici et vous êtes déjà enfant de Dieu, pensez pas que ça ne peut pas vous arriver là, d'être aveugle à vos péchés. Pierre est dit dans 2 Pierre 1,9, en parlant de ceux qui ne recherchent pas nécessairement la maîtrise de soi, l'endurance, l'attachement à Dieu, il dit « Si celui à qui ces choses font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » Fait que c'est là qu'on voit l'importance de la communauté, de vivre en communauté. J'ai besoin de mes frères et sœurs pour me dire « Brian, là, qu'est-ce que tu as fait là? » Ben, j'ai besoin de ma femme. Dire « Qu'est-ce que tu as fait là? » Heureusement, ma femme est très gracieuse envers moi. Elle a une belle façon de le faire. Puis, on en a besoin. Parce que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a pas encore le problème de l'aveuglement spirituel. Alors, chers frères et sœurs, notre réponse est quoi? Après la révélation, c'est rassant. Révélation, adoration, confession, engagement. Je vous laisse avec ça. Et la semaine prochaine, on va voir de quelle façon l'histoire de David va se poursuivre. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.